France Inter. Directrice adjointe de la rédaction du quotidien Libération, journaliste, spécialiste du Moyen-Orient, ancienne correspondante à Jérusalem, romancière et essayiste, Alexandra Schwarzbrod s'est d'abord tournée à 20 ans et pendant qu'elle étudiait la traduction, vers le milieu de l'armement. En 89, elle rejoint les Échos, en 94, Libération et devient pour le quotidien, en 2000, correspondante permanente à Jérusalem. Elle pense couvrir la création d'un État palestinien qui est en effet en cours de négociation. Rien ne se passe comme prévu et elle couvre sa première expérience de la guerre, la deuxième intifada. Conflit tragique, amplifié par les attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et la riposte épouvantable du gouvernement israélien toujours en cours. Cette région a inspiré à la journaliste des polars, dont plusieurs ont été récompensés comme Balagan ou Adieu Jérusalem, et surtout beaucoup d'amour, ce qu'elle raconte notamment dans son récit autobiographique Éclat, paru aux éditions Mercure de France, et je peux vous dire qu'il y a des surprises à toutes les pages. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Alexandra Schwarzbrod.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui? Et je sais que là déjà je prends un risque.
Oui, là vous prenez un gros risque parce que malheureusement j'ai pensé à Éric Ciotti. Vous voyez un peu à quoi j'en suis venue. Non, aujourd'hui malheureusement, depuis dimanche, beaucoup de mes pensées vont vers... le drame que l'on traverse, le drame qui tous les jours a l'air de s'accentuer. Et j'essaye quand même de garder des petits moments d'espoir. Par exemple, hier, quand j'ai entendu par la fenêtre des jeunes dans la rue dire non au RN. Voilà, j'essaye d'y croire encore. Enfin, de toute façon, j'essaye toujours d'y croire parce qu'on n'a pas le choix. Si on arrête d'être optimiste, voilà, on... C'est pire que tout. Donc là encore, j'essaye d'y croire, mais j'avoue qu'il faut que j'aille chercher très 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 loin dans mes réserves d'optimisme en ce moment.
Quelle est l'ambiance à la rédaction de Libération ?
Fatigué, mais combatif. Parce que tout le monde pensait que voilà, on arrivait au bout d'une séquence et puis là il faut repartir, mais combatif, parce que vraiment l'heure est très très grave. Et nous à Libération, qui nous battons pour la liberté, la démocratie, on a une vraie vraie responsabilité et donc on est déterminé à voilà, à travailler plus que jamais et à nous battre et à être les meilleurs possibles.
Il y a un courage pour cela. Tout à l'heure, dans l'introduction, je parlais de surprise à toutes les pages de votre livre, Éclat. Et ça commence dès la première phrase. Mon père a toujours rêvé d'être juif. Il vous disait que vous descendiez de pêcheurs juifs lituaniens et c'était une légende.
Oui, enfin je crois. Je crois, mais vous voyez, la semaine dernière, j'étais à Vilnius, en Lituanie, pour la première fois, et j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de chercher dans l'atmosphère, dans les visages que je croisais, quelque chose qui me ramène à ça. Et voilà. Et parfois, même un jour, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, mais on se connaît, alors qu'on ne s'était jamais vu. Et je me suis dit, ah, mais peut-être qu'elle voit en moi le pêcheur juif lituanien dont je descends. Mais voilà, ça reste comme pour mon père, de l'ordre du fantasme.
Vous avez une veste de capitaine en plus, alors peut-être que vous pêchez parfois, Alexandra Schwarzbrod. En tout cas, vous n'êtes pas juive tout en vous appelant Alexandra Schwarzbrod et vous avez souvent été accusée, quand vous étiez correspondante à Jérusalem pour Libé, d'être anti-israélienne et vous auriez aimé être juive, ne serait-ce que pour avoir plus de légitimité pour critiquer la politique des autorités israéliennes colonisant la Cisjordanie.
Oui, c'est vrai. Bien que dans beaucoup de mails d'injures que je recevais à cette époque, à l'époque où j'étais correspondante, donc beaucoup pensaient que j'étais juive et donc me parlaient de la haine de soi, me ramenaient à ça. Donc même, j'étais insultée même par ceux qui pensaient que j'étais des juifs qui me pensaient que j'étais juive. Mais c'est vrai que je me dis parfois que voilà, ce serait plus facile pour moi, en effet, d'être critique, de critiquer les dirigeants israéliens. Je dis bien les dirigeants, hein, parce que c'est eux que je critique d'abord, si j'étais juive. Et voilà. Mais bon, ça ne m'empêche pas de le faire non plus.
Non, et vous avez cessé aujourd'hui de préciser à chaque fois que vous ne l'étiez pas, puisque vous êtes heureuse d'assumer cette identité. Et je vous cite, Alexandra Schwarzbrot, je trouve que c'est important, je vous cite, « Alors que les Juifs du monde entier sont pris pour cible par la faute de dirigeants israéliens indignes et d'extrémistes palestiniens assoiffés de vengeance, je tenais à le citer en ces temps où les amalgames tragiques et de tous côtés ont le vent en poupe.
Oui. »
Flavien Berger qui signe aussi le générique de l'émission Plongeuse.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Alexandra Schwarzbrod, vous publiez le récit autobiographique Éclat au Mercure de France. Il est dédié à vos enfants qui vous ont toujours reproché de ne pas vous confier assez. Et là, vous vous confiez grandement. L'exercice fut-il aisé ?
Bizarrement, oui. Bizarrement, oui. Je n'avais aucune intention de le faire. On me l'a proposé. Colette Fellouz, qui dirige cette collection Mercure de France, me l'a proposé. Et au début, je me suis retournée pour voir si c'était vraiment à moi qu'elle demandait ça, qu'elle proposait ça. Et puis, je suis rentrée chez moi et j'ai pris mon ordinateur. Je suis partie une semaine plus tard en vacances aux États-Unis avec retrouver mon fils. Et là, j'ai commencé à écrire la première phrase. Et tout est venu d'un coup. Comme s'il y avait en moi l'envie de me, non pas de me débarrasser, parce que je sais pas que je veux m'en débarrasser, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui bouillonnaient en moi, des choses positives, des choses négatives, des culpabilités, des regrets. J'en ai pas beaucoup des regrets, mais ceux que j'ai sont très très puissants. Et puis aussi des combats que j'avais envie de partager, et plus encore après le 7 octobre, puisque je parle aussi de ma vie à Jérusalem, que j'ai passionnément aimé à l'époque. Et donc j'avais envie de partager tout ça, et j'avais besoin de le partager. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a donné un peu de paix de l'écrire, comme si, c'est bien, c'est là, ça existe, et ça m'a fait plaisir.
En tout cas, cet écrit est remarquable d'honnêteté, on apprend plein de choses sur vous, et vous parlez notamment de votre corps, de deux choses. les crises de migraine qui vous ont toujours accompagné, Alexandra Schwarzbrod, et aussi un bruit que vous faites avec votre gorge. Fréquemment.
Oui, le problème, je sens que vous allez me demander de le reproduire.
Bien sûr.
Le problème, c'est que je le fais sans m'en rendre compte. Ah. Donc, si vous me le demandez, je crois que c'est quelque chose qui fait quelque chose comme... Attendez.
Comme un chat, vous êtes un chat en fait.
Une espèce de roucoulement qui sort de ma gorge quand je n'y pense pas. En général, c'est quand je suis heureuse que je fais ça, mais voilà. Et c'est vrai que quand je fais la queue au cinéma, et je le fais, je fais ce bruit, et je vois les gens devant moi qui se retournent, qui regardent par terre, en haut, à droite, à gauche, en se demandant d'où ça vient. Et en fait, je pense que j'ai une sœur qui fait un drôle de bruit aussi, et je pense que ça vient de notre enfance, où on avait besoin, j'avais un père qui était très, souvent très énervé, enfin voilà, c'était... Et je pense que c'était un besoin de rentrer en nous, ce bruit.
Pour c'était se couper un bruit, de l'extérieur
un bruit sur lequel on se concentrait, je ne sais pas.
Vous avez inventé un bruit blanc interne.
Oui, c'est ça.
À 20 ans, vous vous orientez vers l'armement et l'aéronautique en poussant la porte d'une agence d'intérim, Kelly Service. Vous étiez alors étudiante dans une école de traduction. Je vous laisse raconter, parce que c'est quand même surprenant. Tout est surprenant dans ce livre.
Oui, mais c'est aussi, c'est ça qui m'a fait plaisir de raconter, notamment à destination des jeunes gens qui démarrent dans la vie, qui ont peur, qui ont peur de prendre les mauvaises décisions, de faire les mauvais choix. C'est à quel point parfois les hasards vous portent et parfois des chances, des perches vous sont tendues et il faut surtout les saisir sans se poser trop de questions ça va vous orienter, ça va vous conduire à d'autres perches qu'il faudra à nouveau saisir. Et bien sûr, même si on fait des erreurs aussi. Et c'est vrai que souvent, je pense à cette porte que j'ai poussée un jour de, je ne sais plus, 1978 ou 19, et où j'ai dit, voilà, je cherchais un petit boulot pour arrondir mes fins de mois, et j'ai dit que je parlais l'anglais, le russe, et on m'a dit, mais est-ce que vous êtes libre en septembre prochain pour vous accepteriez d'aller à un salon aéronautique qui s'appelle Farnborough, et Farnborough, c'est le grand salon aéronautique britannique qui se tient en alternance avec le salon du Bourget en France. Alors moi, mes yeux sont écarquillés parce que je rêvais de voyager déjà, donc j'ai dit oui tout de suite. Et à ce salon, j'ai découvert un univers, un monde, le monde de l'armement, le monde des fabricants d'armes. Je me suis retrouvée, jeune femme de 19 ans, affublée d'une robe d'hôtesse avec des talons hauts, alors que je ne vivais qu'en jean et basket, et sur des stands parmi des lance-roquettes multiples, des chars, et voilà, et les hôtesses sur les stands à cette époque-là, encore aujourd'hui encore malheureusement, mais voilà, comme je l'écris, on était vraiment des pièces de bœuf sur un étal de boucher, quoi. Les hommes étaient là, voilà, on était là pour attirer les hommes sur le stand. Et donc j'ai découvert un monde très particulier, mais qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, vraiment fascinée, parce que ça touchait à l'étranger, ça touchait à la diplomatie, ça touchait à l'économie, ça touchait à la technologie, au futur. À l'époque, je ne voyais pas vraiment le côté destructeur. Tous ceux à qui j'en parlais me disaient « mais nous, on vend des armes au pays pour se défendre ». Donc c'était comme ça qu'il se présentait. Et moi, à 19 ans, j'y croyais. C'est que beaucoup plus tard que j'ai compris à quoi servait ce que je contribuais à mettre en valeur.
Tout à l'heure, j'évoquais votre honnêteté, Alexandra Schwarzbrod. Vous confessez dans le livre avoir toujours été attirée par les zones grises. Et c'est très rafraîchissant, en fait, de lire ça aujourd'hui, puisque vous évoquez aussi la bagatelle que vous recherchiez frénétiquement. Vous parlez de ce désir en l'assumant pleinement, de la multiplication des conquêtes et des aventures, du fait que cela ait fait souffrir votre ancien mari, aujourd'hui disparu. Avez-vous hésité à un moment à vous confier autant ?
En tout cas, si l'homme avec qui j'ai vécu 20 ans et avec qui j'ai fait 2 enfants avait toujours été en vie, et ce que j'aurais 1000 fois préféré à l'écriture de ce livre, je ne l'aurais pas fait, bien évidemment. Mais là, c'est vrai qu'il est mort il y a quelques années. C'est une mort qui ne passe toujours pas, et surtout qui a fait remonter toute la culpabilité que j'éprouvais vis-à-vis de lui. Et c'est en ça que j'ai dit que je pensais que ça m'avait amené un peu de paix, parce que c'est vrai que je pense que j'avais besoin de raconter ça, de l'écrire noir sur blanc, parce que c'est vrai que je lui ai fait beaucoup de mal, et maintenant évidemment, je le comprends. Mais en même temps, voilà, c'est vrai que c'était plus fort que moi. J'aimais les hommes. Enfin, j'aime toujours. J'ai passionnément aimé les hommes, le sexe, le goût du... cette espèce de sensation qu'on éprouve quand on va rejoindre un homme dans un hôtel. J'ai fréquenté beaucoup d'hôtels dans Paris et cette espèce de... c'est indescriptible, de sensation qu'on éprouve en montant les marches d'un hôtel, en frappant à la porte ou à l'appartement de quelqu'un dont on a envie. Et c'est vrai que c'était plus fort que moi. Je pouvais pas ne pas le vivre jusqu'au bout. Et je ne le regrette pas, d'ailleurs. Je regrette juste le mal que j'ai fait. Mais je ne regrette pas ce plaisir-là. Et je suis heureuse d'avoir vécu ça.
Tout à l'heure, vous parliez de la sorte de ronronnement que vous faites sans vous en rendre compte, et vous disiez que c'était peut-être pour vous couper de l'extérieur. Et à un moment, quand vous parlez des scènes de sexe de lorsque vous étiez très jeune, quand vous étiez étudiante, vous parlez de scènes de pur sexe dont vous n'avez aucun souvenir. Et je voulais savoir, est-ce que ce n'était pas aussi pour fuir quelque chose ?
Sans doute. De toute façon, je pense qu'on passe notre vie à fuir quelque chose, hein, à fuir
l'existence,
à fuir notre enfance, nos névroses, nos peurs, nos phobies. Donc, oui, bien sûr, c'était sans doute une façon de fuir. J'étais très angoissée. Je le suis toujours, mais un peu moins maintenant que justement ce livre m'a permis de lutter contre mes angoisses. Mais j'étais extrêmement angoissée quand j'étais jeune, angoissée partout, la mort, la maladie, l'avenir. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de cette vie. Et c'est vrai que toutes ces aventures, ça me permettait de remplir cette vie. Et puis, je crois que j'avais déjà la sensation qu'elle était courte, la vie, et qu'il fallait la remplir au maximum.
Vous dites, Alexandra Schwarzbrod, que vous n'êtes pas sûre qu'aujourd'hui vous vous entendriez avec celle que vous étiez plus jeune. Qu'est-ce qui a changé ?
Bah, je suis peut-être plus consciente justement du mal que je suis susceptible de faire autour de moi. Quand j'étais plus jeune, ce n'est pas que j'en étais pas consciente, mais en tout cas, je passais outre. Et maintenant, c'est quelque chose. Et puis, c'est vrai que, voilà, je pense que j'étais pas très MeToo à l'époque. Maintenant, et c'est pour ça que je pense que ce mouvement est important. Il est important de montrer que non, on n'est pas obligé de dire toujours oui à un homme. Comme je l'écris, le nombre de fois où j'ai cédé à un homme juste pour lui faire plaisir, pour ne pas lui déplaire. Quand j'y repense, c'est insensé. Mais j'avais été éduquée un peu comme ça. Et beaucoup, beaucoup d'entre nous ont été éduqués comme ça. Et maintenant, je ne le referai plus. Maintenant, je dirai non fermement.
Il y a quelqu'un à qui vous avez dit non, mais pour le travail.
Comme je voyageais beaucoup, j'étais, comme vous l'avez dit, en grand reporter, je voyageais beaucoup, je ramassais beaucoup de matériel qui était inutilisé. Donc c'était une façon d'utiliser ce matériel que je ne pouvais pas utiliser dans des papiers. Vous savez, les papiers, la place est limitée, hein, ce journal.
On peut dire aussi tout ce qu'on a envie de dire dans un SAS.
C'est beaucoup plus facile d'écrire un roman que d'écrire un article. Dans un article, vous avez quand même des barrières, des garde-fous que vous n'avez pas dans un roman. D'abord, dans un roman, vous pouvez transformer les choses. C'est pas dans une non-fiction, vous ne pouvez pas. Vous pouvez enjoliver, vous pouvez mettre de la sauce autour, de façon à ce que ce soit plus mangeable.
C'est Gérard De Villiers qu'on entend au micro de Frédéric Taddeï sur France Culture en 2013. Alexandra Schwarzbrod, vous commencez à dévorer les SAS vers 10-12 ans. Vous aimez les scènes de sexe, de violence, la représentation du monde interlope. Et vous rencontrez plus tard Gérard De Villiers à deux reprises, je crois, quand vous êtes aux Échos. Ouais. Puis ensuite, il pense à vous, à Jérusalem, et vous lui dites non.
Pour le travail, hein, entendons-nous, parce que il fonctionnait comme ça en allant dans les endroits, notamment les zones de guerre, et en demandant aux correspondants locaux de lui servir de rabatteur d'infos, en quelque sorte. Et donc, il m'avait demandé si je pouvais. C'était d'ailleurs sur Gaza. Il préparait son prochain SAS qui devait se dérouler à Gaza. Et outre le fait que je n'avais absolument pas le temps, parce que on était en pleine intifada, je travaillais déjà 12 heures par jour, j'avais mes enfants petits, enfin bref, tout était compliqué. Mais en plus, bon voilà, je ne me voyais pas travailler pour Gérard de Villiers, même si j'étais contente de le rencontrer, parce que j'ai appris beaucoup de choses dans ces livres. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai rencontré, c'était à la popote du chef d'état-major de l'armée de terre, qui m'avait invité à l'époque où j'étais spécialisée dans l'armement, et il m'avait invité à déjeuner avec Gérard de Villiers. Et là, j'avoue que j'étais assez sidérée de me retrouver à sa table.
De ces lectures, en tout cas, vient votre passion du polar. Vous en écrivez, vous enseignez ce genre littéraire aux étudiants de Sciences Po, et vous écrivez que le premier exercice que vous donnez à vos étudiants, c'est de raconter par écrit ce qui leur fait le plus peur dans la vie.
Oui.
Et vous dites que vos peurs sont innombrables. Tout à l'heure, vous y avez fait allusion. Quelle est votre plus grande peur ?
Oh, la peur de perdre les gens que j'aime, et notamment mes enfants. Ça, c'est une peur viscérale permanente.
Et vous lisez tout le temps aussi, et vous dites, Alexandra Schwarz-Droth, vous avez besoin de fiction, que si vous ne lisez pas, vous êtes trop angoissée par le réel. Ça, c'est dur quand même pour une journaliste et directrice adjointe de la rédaction d'un quotidien.
Mais ceci explique cela, puisque comme je vous disais au début de cet entretien, j'ai quand même passé la journée avec Éric Ciotti, qui a donc annoncé le ralliement, enfin qu'il souhaitait que LR rallie le RN, l'extrême droite. Vous comprenez que quand je sors de Libé, après une journée pareille, je n'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir dans le métro et d'ouvrir le livre que je suis en train de lire et de me plonger dans une fiction, quelle qu'elle soit, pour oublier toutes les horreurs que j'ai vues défiler toute la journée.
Et surtout, le polar, qui est le livre dans lequel on peut mettre la violence. C'est le livre, disait Jean-Patrick Manchette, que vous citez, c'est le roman de la crise, le polar.
Oui, c'est le roman de la crise, et d'ailleurs je crois que c'est pas un hasard si aujourd'hui on lit autant de polar. Le polar... Maintenant, dans tous les pays du monde, il y a des auteurs de polar. Et c'est ça qui est formidable, d'ailleurs, parce que quand on prend l'avion pour un pays, ce qui est formidable, c'est de prendre un livre de l'auteur, d'un auteur du pays où l'on va. Et on peut faire ça quasiment partout. Et tous ces auteurs racontent les crises qui bouleversent leur pays, qui bouleversent le monde. Et on apprend beaucoup de choses via le polar. Moi, j'adore.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет.
On entend Bulatu Kujava, Molitva, une adaptation de Prière de François Villon. À 13 ans, Alexandra Schwarz-Droth, vous apprenez le russe et vous écoutez en boucle Bulatu Kujava et Vladimir Vysotsky. Pourquoi ? Puisque à Grenoble, vous êtes émue là.
Oui, très émue d'entendre ça. C'est ce que j'écoutais quand j'étais adolescente et ça fait remonter des souvenirs. C'est tout un monde qui remonte.
Il y avait une communauté de Russes blancs à Grenoble qui vous fascinait, c'est pour ça que vous avez choisi le russe ?
Oui, il y avait une communauté de Russes blancs et notamment une femme que j'adorais, qui est morte il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Nicole, et qui était très belle, qui était enfant de Russes émigrés et qui m'a d'ailleurs donné beaucoup, inculqué le désir des hommes et aussi le désir du beau, le désir de cette langue russe qui est très belle. Et voilà, et peut-être de cette espèce de tristesse qui se dégage, de déchirement. Et je sais que le père de mes enfants, justement, détestait quand j'étais déprimée. Je mettais Vysotsky à fond la caisse et lui, il était totalement déprimé. Mais voilà, ça me permettait de m'enfoncer dans ma déprime.
Bah écoutez, si je vous avais reçu dans Remède à la mélancolie, je vous aurais posé cette question. Ensuite, vous avez étudié le chinois, vous parliez déjà anglais, vous aviez des notions d'espagnol, l'arabe et l'hébreu à Jérusalem. Combien de langues parlez-vous ?
Oh non, mais je les ai étudié toutes celles que vous venez de citer, mais malheureusement, je ne les parle pas. J'ai des bribes, mais j'adore les langues étrangères. Je rêverais de les parler toutes. Mais d'ailleurs, je ne désespère pas. Mon rêve, ça serait un jour d'aller passer 2 mois à Jérusalem et le matin d'aller dans un oulpan apprendre l'hébreu et l'après-midi aller dans la vieille ville arabe de Jérusalem pour prendre des cours d'arabe. Ce sont 2 langues absolument magnifiques qui sont très proches l'une de l'autre et voilà, j'espère bien les parler un jour. Le chinois, c'est une langue extraordinaire et pas si difficile à apprendre quand on a l'oreille musicale.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de tons.
Parce qu'il y a des tons, et voilà, il n'y a pas de grammaire. Et voilà, non, mais c'est merveilleux de parler des langues étrangères.
Oui, ça, je vous rejoins. Vous avez grandi dans un milieu très politisé. À 7 ans, vous distribuez des tracts pour Pierre Mendès France, que vous avez même accompagné à un concert de Claude François. Non, mais racontez-nous, Alexandra Schwarzbrot.
Ben oui, mon père, il y a un moment, mon père était très politisé à Grenoble. Hein, il était adjoint de Dubedou, qui était le maire PS emblématique de Grenoble. Et à un moment, il était question qu'il soit suppléant de Pierre Mendès France. Et donc, pendant quelques mois, on a collé avec ma petite sœur, qui avait 5 ans, on a collé des enveloppes avec des tracts, tout ça dedans. Et puis un soir, ben, mon père nous a emmenés à un concert de Claude François, en effet, et avec Mendès France. Et après le concert, Mendès France est allé, on est allé avec Mendès France saluer Claude François. Je m'en souviens très bien, et je me souviens très bien d'avoir vu Alain Chamfort, qui était dans un coin, qui à l'époque était tout débutant, que Claude François lançait. Et Mendès France qui a dit à... Ça, c'est mon père qui me l'a rappelé après, parce que moi, j'étais trop petit, je m'en souvenais plus. Mais il a dit à Claude François... C'est Claude François qui a dit à Mendès France, je savais que vous étiez dans la salle et j'ai chanté pour vous.
Il s'est parlé aux hommes.
I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin.
The Last Dinner Party, Nothing Matters.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
La journaliste et directrice adjointe de la rédaction du quotidien Libération, Alexandra Schwarzbrod, est avec nous pour parler de son récit autobiographique Éclat, paru au Mercure de France.
I saw it.
Hotel California des Eagles, tube dont le titre de travail était Mexican Reggae, ce qui sonne un peu moins bien, et tube que vous écoutiez, Alexandra Schwarzbrod, à Nouméa, quand Paris vous manquait. Vous avez séjourné à Alger, à Nouméa, à Jérusalem. Est-ce que vous vous sentez bien aisément à l'étranger? Combien de temps avez-vous passé à l'étranger en tout?
Oh, je n'ai pas calculé, mais oui, j'aime. Je pense que les voyages, c'est vital. C'est vital d'abord d'aller voir ailleurs comment vivent les gens. Ça permet de relativiser ce que nous avons l'impression de subir. Mais en fait, on voit que parfois, que par rapport aux autres, c'est moins pire. Et puis, ça enrichit. Ça enrichit tellement. Voyager, c'est vraiment important. Et donc, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'ai eu une boulimie de voyage, d'envie de découvrir l'autre. Et c'est vrai qu'avec mon mari, c'était un vieux. Lui, c'était quelqu'un qui savait tout faire de ses mains. Il savait pêcher, il savait construire une maison, il savait préparer le couscous, les brochettes. C'était quelqu'un d'incroyable. Et du coup, je savais qu'avec lui, je serais en sécurité partout. Et on pourrait se débrouiller partout. Et donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'on est parti, alors que j'avais 20 ans, lui 27, vivre, on a tout abandonné pour aller vivre en Nouvelle-Calédonie. Et puis en fait, sur place, ça a été la grosse désillusion, on est revenu au bout de 2 mois, mais c'est vrai que ça, j'en ai gardé quand même un souvenir très fort.
Vous datez la fin de votre enfance à l'année 73, la mort de vos grands-parents dans un accident. Vous avez perdu d'autres proches depuis. Et vous semblez fuir le sentiment de deuil dans le livre. Je voulais savoir où vous en étiez avec ce sentiment et si vous étiez dénué de mélancolie.
Je ne sais pas si c'est la mélancolie qui me caractérise.
On ne dirait pas du tout en vous lisant.
Oui, je ne pense pas être quelqu'un de mélancolique. Je suis quelqu'un, encore une fois, facilement angoissé et facilement ému. Je peux pleurer assez facilement et facilement ému. Le deuil de mon ex-mari n'est toujours pas passé. Celui-là, je ne l'ai toujours pas... Je n'arrive même pas à le concevoir, ni à en... parler de lui ça me fait toujours mal parce que sa fin était terrible et la souffrance de mes enfants a été terrible et je l'ai vécu, j'ai vécu la leur en plus de la mienne et la leur étant terrible et c'est un grand chagrin. Mais je ne suis pas mélancolique, parce que j'aime trop la vie.
Alors justement, je suis navrée, en tout cas je ne voulais pas vous refaire parler d'un sujet douloureux, Alexandra Schwarzbrod. Quand on vous fait remarquer votre optimiste, et c'est ça qui frappe à chaque page du livre, on sent une pulsion vitale personnifiée, enfin incarnée. Quand on vous dit que vous avez un optimisme à toute épreuve, vous répondez « on n'a pas le choix, sinon on s'effondre ».
Mais oui, c'est vrai. Ça sert à quoi d'être pessimiste? Ça sert à rien. Ça sert juste à vous accabler, à vous faire sombrer, à déprimer vos proches. Non, ça sert à rien. Donc, et puis la vie, c'est quand même tellement précieux. On le voit aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, quand on voit toutes les horreurs qui se passent dans le monde, ce que subissent certaines personnes, certaines populations. On se dit que nous, on a une chance folle de ne pas subir ça. Et donc, il faut profiter de chaque seconde.
Ce qui frappe en vous lisant, en vous écoutant, c'est votre optimisme, mais c'est aussi votre audace. Quand vous êtes passé des Échos à Libération, il y avait déjà une spécialiste défense, alors vous vous êtes présentée comme une experte en économie sans rien y connaître. Est-ce que vous avez souvent fait ce genre de choses?
Deux, trois fois, oui. Il y a un moment où il faut y aller. Quand vous avez vraiment envie d'un truc, que ce soit un homme, un boulot, n'importe quoi, il faut y aller. Parce que de toute façon, on n'a rien à perdre, juste un peu d'humiliation, c'est pas grand-chose.
Vous apprenez, c'est peut-être aussi de l'audace, qu'un poste de correspondant se libère à Jérusalem. Vous ne connaissez rien à la région, enfin vous y êtes allé une fois avant et vous partez au printemps 2000 persuadé d'assister à la création d'un État palestinien prévu le 15 septembre suivant suite aux négociations de Camp David entre Ehud Barak et Yasser Arafat. Ça semble fou aujourd'hui.
De
voir que c'était en cours, oui.
C'est fou. Non, mais ouais. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, c'est que tout ce temps perdu... À, à, à ne pas essayer de ramener ces deux peuples ensemble, ou en tout cas, ou alors à les séparer définitivement en deux États. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il n'y a plus qu'une solution, c'est la création d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien, parce que là, il y a trop de haine qui s'est accumulée, il y a trop de haine, et il va falloir une ou deux générations pour que cette haine se dissipe. Donc je pense qu'il faut qu'ils aient chacun un État. On me dit, mais là, la colonisation, ça permet pas, il y a trop de colonies, on peut pas. Non, je suis sûre qu'il suffit qu'il y ait une décision politique, et derrière, l'intendance suivra. On se débrouillera, on trouvera, on évacuera certaines colonies, on fera des échanges de territoires. Je reste convaincue que c'est possible, et il faut absolument en rester convaincue, parce que sinon, c'est fini pour le peuple palestinien. Et peut-être même pour le peuple israélien, parce que tant que les Palestiniens n'auront pas leur État, les Israéliens ne seront pas en paix. Donc c'est vital pour ces deux peuples, et on n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à faire ça.
Je voudrais juste rappeler une blague qu'avait racontée à l'antenne André Markovitch. C'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe.
Je chante pour passer le temps au crible de mes souvenirs. Je chante pour recueillir le temps des bonheurs et le temps des peurs et le long temps des pleurs.
Qu'est-ce qu'on écoute, Alexandra Schwarzbrod?
On écoute Talila, et là je suis vraiment émue, parce que c'est non seulement une femme, une chanteuse extraordinaire de yiddish, mais c'est aussi devenu une amie très proche qui vient de perdre son homme, qui était aussi celui qui l'accompagnait en musique, un musicien extraordinaire, Teddy Lasry. Et voilà, et ces chansons, chaque fois, alors cette chanson est particulière, c'est une chanson que lui a écrite Jean Rouault, l'écrivain Jean Rouault. Et ça parle d'un monde englouti, d'un monde disparu. Et chaque fois que je l'écoute, je suis bouleversée.
Dans Éclat, vous racontez qu'à Jérusalem, vous appreniez l'arabe en écoutant Férouz. C'est justement votre second choix musical, Ishar.
حتى يحرز المشوار سار بعد سار حتى يحرز المشوار كتار أو زوار شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس سار بس سار سار.
Ishar de la chanteuse libanaise Férouz dans Grand Canal sur France Inter. Un mot?
Je l'écoutais en boucle quand j'étais en effet à Jérusalem, et quand je l'entends, j'entends cette chanson et même les premières notes de musique, et je revois ma maison. Pour moi, c'était ma maison voûtée avec les dalles de pierre qui étaient l'été, qui étaient fraîches sur les pieds quand il faisait si chaud. Et je ressens tout ça, tout ça remonte dès que j'entends cette chanson.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. On reste dans le ton. Vous avez choisi, Alexandra Schwarzbrod, l'exposition Présence arabe au Musée d'art moderne de Paris.
Formidable exposition, vraiment. J'encourage tout le monde à aller la voir, parce qu'il y a plein d'artistes de tous les pays arabes. Il y a aussi un long... C'est très bien fait, parce qu'on voit le processus des décolonisations, tous ces artistes qui se sont retrouvés à un moment ou à un autre à Paris. Et on découvre aussi, il y a deux ou trois œuvres de cette artiste algérienne qui s'appelle Baya, sur laquelle il vient de sortir un très beau livre d'Alice Kaplan, une historienne américaine qui a écrit un livre sur Baya. Et voilà, j'ai été très émue de voir ces peintures, parce que c'est très très beau.
Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Alexandra Schwarzbrod, vous racontez dans le livre aussi votre amour de la natation et de la gymnastique que vous pratiquez chez vous le matin en écoutant Dolly Parton, dont on entend le titre Jolene.
Ah bah oui, elle file une pêche dingue. Vous rendez compte, Dolly Parton, je ne sais pas quel âge elle a, elle est toujours sublime. Alors bon, elle est incroyable, elle a une énergie folle. Et ses chansons, moi, le matin, justement, là, au réveil, ça me donne envie de bouffer la terre entière.
Vous faites de la gymnastique toute seule, vous avez cette autodiscipline ?
Oui.
Je suis impressionnée. Il y a une photo dans le livre, dans la légende, à la fin, et j'écris tout le temps, partout, et dans n'importe quelle condition.
Oui, c'est vrai.
La lecture aussi ?
La lecture, encore plus la lecture, tout le temps. J'ai toujours un livre sur moi, toujours peur de perdre. Je déteste perdre du temps, c'est-à-dire attendre sans rien entre les mains. Là, maintenant, tout m'est égal, j'ai toujours un livre, je suis capable de lire debout, dans le métro, coincée, je lève les mains et je mets le livre au-dessus des têtes et je continue à lire. Parce que, voilà, le temps perdu m'insupporte.
Vous avez donc une bonne capacité de concentration aussi.
Oui, je crois. Et ça me vient, je pense, de Libé. Vous savez, moi, j'écris mes éditos dans un open space, c'est-à-dire qu'il y a 50 personnes autour de moi qui parlent, le téléphone qui sonne, la télé parfois. Et à la limite, je ne sais écrire maintenant que dans le bruit.
Per me, scrivere è raccontare.
Pour moi, écrire, c'est raconter. J'ai toujours écrit sur les femmes et je continuerai. Pas par féminisme primaire, mais simplement parce que je pense qu'en tant que femme, je connais mieux les femmes. Et je veux explorer ce qui concerne mon sexe, mon univers, mon monde. C'est juste pour ça.
Goliarda Sapienza, dans le documentaire de Coralie Martin, Désir et Rébellion, disponible en ce moment sur Arte. Alexandra Schwarzbrod, un de vos romans cultes, c'est L'Art de la Joie.
Oui, mais déjà rien que le titre. Rien que le titre, tout est beau dans ce livre, tout est beau, le titre, la couverture, et ce texte tellement intense, passionné, là aussi il y a le goût du sexe, le goût de l'amour, le goût de l'aventure, c'est en plus une tranche d'histoire, toute l'Italie, l'histoire politique de l'Italie au XXe siècle, enfin, il y a tout dans ce livre, et... J'ai dévoré la biographie que lui a consacrée sa traductrice, Nathalie Castagnier, qui est parue il y a un mois. Et l'histoire de cette femme est extraordinaire, avec en plus ce livre qui est paru après sa mort. Elle n'a jamais réussi à le faire publier de son vivant.
La joie, vous semblez savoir la cultiver. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? L'art de la joie. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui où tout semble si sombre ?
Croire en la vie, les rencontres, justement, le hasard, la chance, les rencontres et l'amour de ceux qui vous aiment et que l'on aime, ça c'est important. Moi j'ai la chance immense d'être aimée par mes enfants, d'être aimée par un homme, d'être aimée par mon père, par ma sœur, par mes amis. Quand j'étais plus jeune, j'avais que des amis hommes. Maintenant, j'ai des amis femmes qui sont vitales pour moi. Je puise aussi dans leur énergie, leur joie de vivre. Et cet amour-là, il faut le cultiver, il faut s'en repaître. Et enrichi de ça, aller vers les autres, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde est tellement dans sa bulle, justement par peur. Il faut aller vers les autres, il faut s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux autres, découvrir, aller à la découverte de l'autre. C'est tellement important, aujourd'hui, plus que jamais, aujourd'hui où les murs s'élèvent entre les gens, entre les peuples, il faut aller à la découverte de l'autre, c'est vital.
Là, vous venez de dire quelque chose que vous écrivez aussi dans votre livre, Alexandra Schwarzbrod, c'est que vous n'aviez que des amis hommes avant. Maintenant, vous avez des amis femmes très précieuses. Qu'est-ce qui a changé dans votre rapport aux femmes ?
Je trouve que les femmes sont passionnantes, en fait. Oui, parce que longtemps, seuls les hommes m'ont intéressée. Et aujourd'hui, je trouve davantage d'intérêt. Aux femmes qui ont peut-être plus... Alors, j'ai peur de tomber dans les clichés en disant ça, mais peut-être que les femmes ont plus l'habitude du combat. Parce que toute leur vie, depuis leur adolescence, leurs premières règles, elles sont habituées à se battre contre ce qui s'abat sur elles tous les mois. Puis ensuite, faire des enfants, réussir au boulot, tout en restant séduisante, sexy. C'est quand même beaucoup d'injonctions pour les femmes. Et donc, je pense que ça les rend plus résilientes, sans doute.
On évoquait un nouveau roman culte. J'opinais du chef en tous sens, évidemment. On parlait du roman culte, L'art de la joie. Et les livres que vous avez aimés adolescentes, c'était Premier amour de Tourguenieff, Gare et Pet, Tolstoï, Le maître et Marguerite de Bulgakov, Les nourritures terrestres de Gide et Le journal d'Anaïs Nin.
Oui, oh bah oui, bah le oui. Journal d'Anaïs Nin, vous imaginez.
Oui, et il y a des choses, oh là c'est là. Au-delà du olé olé, il y a des choses même incroyablement dérangeantes.
Ah oui, oui, bien sûr. Comme dans Henry Miller, j'ai dévoré tout Henry Miller, j'adorais. Mais bien sûr, ça c'est... Mais justement, ça me plaisait, ce côté un peu transgressif, un peu... Et ce côté très sexuel aussi. Très...
Avec son père.
Et oui, 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 bien sûr.
Délibérément à l'âge adulte. Je m'en suis toujours pas remise. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Alexandra Schwarzbrod?
Là, je lis un auteur lituanien. Terrible, c'est terrible. J'avoue que lire ça en ce moment, c'est... Voilà, c'est un auteur lituanien qui raconte comment les Lituaniens ont beaucoup participé à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est écrit de façon très crue, très violente. Et voilà, mais bizarrement, ça me permet quand même de m'évader.
Vous avez le titre ou l'auteur?
Je l'ai pas sur moi. Je l'ai pas sur moi, malheureusement.
Sur un réseau social, vous.
Mais c'est un livre qui va paraître en septembre chez Agulo, un éditeur magnifique, formidable, qui publie beaucoup d'auteurs de l'Est. Et donc, vous le retrouverez tout de suite en septembre chez Agulo, cet auteur lituanien.
Il est dans quelques minutes, il sera 21h. Normalement, c'est l'horaire auquel vous bouclez le journal.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que c'est la une de demain?
Je crains que ce soit Éric Ciotti et avec Marine Le Pen en fond. Parce qu'en effet, ce rapprochement entre Éric Ciotti et Marine Le Pen, ça fout vraiment les jetons.
Alors moi, je propose quand même de terminer sur une note positive et de terminer sur la pulsion de vie qui vous caractérise en écoutant une chanson, puisque votre livre est émaillé de chansons, une chanson de Luz Casal.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré.
Historia de un amor de Luz Casal, que vous écoutiez en attendant un amant, Alexandra Schwarzbrod. Je voulais qu'on termine sur de la libido et du désir. La libido, oui, dans tous les sens du terme.
Elle est si belle, cette chanson. Elle est merveilleuse. Oui, vous avez raison. Il faut terminer sur de la libido et du désir.
Oui, pour tous les domaines de la vie.
Tout, partout.
C'est ça le combat aujourd'hui, le désir.
Le désir, ah oui, c'est hyper important. Quand on perd le désir, on perd tout.
Merci beaucoup, Alexandra Schwarzbrod.
Merci à vous.
Votre récit autobiographique Éclat est paru aux éditions Mercure de France et on peut évidemment lire vos éditos, entretiens et papiers dans Libération. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Arnaud Caillet et dans un instant Very Good Trip par Mishka Assayas, le sémillant, qui est là. Mishka, vous êtes
là? Ça dépend des soirs.
Mais là, vous êtes sémillant.
Là, quand c'est vous, je suis toujours sémillant.
Ah, alors quel est le programme?
Bah écoutez, ce sera une escapade vers la vieille Angleterre ce soir.
Ah bien, je mets mes dentelles et je suis à vous.
J'en demandais pas tant.
À tout de suite.